Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 9h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Xavier Besson.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière édition ce dimanche d'Afrique Matin. À la une aujourd'hui, le Togo et cette nouvelle attaque qui a visé le nord du pays dans la nuit de vendredi à samedi, qui a visé précisément le village de Malbongou. Attaque ce matin non revendiquée et ses auteurs ne sont pas identifiés, mais au moins 8 habitants de la localité ont été tués. Dans ce journal également, l'Est de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 à l'offensive. Après avoir pris le contrôle cette semaine de la ville de Kalembe, ils se sont emparés hier de plusieurs villages du territoire de Walikale. Le chef de la diplomatie ukrainienne en Afrique du Sud, un pays qui a récemment réaffirmé sa proximité avec la Russie. Et puis la Turquie qui va pouvoir lancer ses opérations d'exploration pétrolière au large de la Somalie. C'est donc la deuxième fois ce mois-ci qu'un même village du nord du Togo est attaqué. C'est la localité de Malbongou qui a subi, dans la nuit de vendredi à samedi, un nouvel assaut d'hommes armés, attaque qui n'a pas été revendiquée, mais lors de laquelle au moins 8 des habitants de la localité ont été tués. Précision et explication avec Sabine Mellet.
L'incursion a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Selon plusieurs villageois, des hommes armés sont entrés dans une concession où ils ont tué 8 personnes. Le propriétaire d'une maison qui abritait des déplacés d'un village voisin pour échapper à l'insécurité a été abattu ainsi que ses protégés. C'est la deuxième fois en moins de 2 semaines que le village de Malbongou subit l'assaut des groupes armés. Quelques jours plus tôt, ils ont incendié des boutiques avant de disparaître dans la nature. Aucune victime n'avait été déploré. Il ne se passe pas une semaine sans incident, c'est impossible, confie un habitant de la zone de Kpenjal West. Ces derniers mois, cette zone est devenue l'épicentre d'incursions des groupes armés, contraignant de nombreux villageois à quitter leur maison à la recherche de sécurité dans des villages voisins. Les déplacés internes sont en constante augmentation. Conséquence, les champs sont abandonnés et les activités agricoles complètement paralysées.
Et ces attaques dans le nord du Togo, elles sont généralement l'œuvre de groupes armés venus du Burkina Faso. Cette semaine, le Ghana voisin a été mis en cause, accusé dans un article de l'agence de presse Reuters de fermer les yeux sur la présence et sur les activités sur son territoire de membres de groupes armés venus du Burkina. Réaction hier du ministre de la Sécurité nationale. Il dément dans un communiqué toute forme de collusion avec les groupes djihadistes. En République démocratique du Congo, le cessez-le-feu de l'Est congolais a-t-il encore un sens dans la province du Nord Kivu? La semaine qui vient de s'achever a été marquée par des combats, par la prise de la ville de Kalembe, par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Et les affrontements se sont poursuivis hier entre ces miliciens M23 et des miliciens Wazalendo, alliés, eux, à l'armée congolaise. Combat autour de plusieurs villages du territoire de Walikale. Correspondance, Héritier Baraka.
Selon des sources sécuritaires et administratives, les combattants du M23 ont attaqué simultanément plusieurs villages du groupement de Kisimba, dont les villages de Minjenje et Malemo, qui sont passés dans les mains des rebelles. Ces combats violents ont occasionné des déplacements vers la ville de Pinga. Des centaines d'habitants, en majorité des femmes et des enfants, sont arrivés en masse dans la soirée d'hier sous une pluie battante, selon la société civile locale. Dans leurs offensives, les rebelles du M23 ont aussi pris contrôle des villages de Katobo, Luola, Mbukuru et Mukohoa. Selon des sources sécuritaires, ils chercheraient désormais à prendre la ville de Pinga, base importante de l'armée et ses alliés les NDCR, où se trouve un aérodrome. Au moins une dizaine de civils ont été tués depuis le début de la semaine dans ces combats, toujours selon des sources sanitaires dans la région. L'Angola avait condamné en début de la semaine la violation du cessez-le-feu par les M23. Des sources proches de l'AFC M23 disent ne pas être liés à ce cessez-le-feu et n'a pas été associé avant l'annonce de cette décision. Héritier Baraka, Goma, RFI.
RFI 9h34 à Libreville et ses précisions au Gabon en vue du référendum constitutionnel le 16 novembre prochain. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement de transition indique que la campagne se déroulera du 7 au 15 novembre et il annonce surtout que les observateurs internationaux seront autorisés, ce qui n'avait pas été le cas lors des dernières élections organisées par l'ancien régime d'Ali Bongo en 2023. Après la Turquie et Oman, le nouveau chef de la diplomatie ukrainienne termine sa première tournée à l'étranger sur le continent africain. Andriy Shyba, qui est attendu en Afrique du Sud aujourd'hui, après l'Angola et l'Égypte. Aujourd'hui et demain même, il s'entretiendra avec des représentants du secteur économique, avec la communauté locale ukrainienne et avec son homologue sud-africain, alors que l'Afrique du Sud a récemment réaffirmé ses liens avec la Russie. À Johannesburg, correspondance de Claire Bargelès.
Cette visite intervient seulement quelques jours après le déplacement du chef de l'État sud-africain à Kazan, en Russie, à l'occasion du sommet des BRICS. Cyril Ramaphosa y avait alors qualifié Moscou d'ami et d'allié précieux, tandis que Vladimir Poutine s'était réjoui des sphères prometteuses en matière de coopération. Les échanges désormais avec la diplomatie ukrainienne sont donc très représentatifs de la politique de non-alignement défendue par l'Afrique du Sud depuis le début de la guerre et de sa volonté d'entretenir le dialogue avec les deux camps afin de rester une force de négociation. C'est d'ailleurs ce qui avait conduit Pretoria à mener une mission de paix africaine l'année dernière aux côtés des chefs d'État du Sénégal, de la Zambie et des Comores. Andrei Sibiya devrait insister auprès des officiels sud-africains sur le plan pour mettre fin à la guerre conçue par le président ukrainien. Et les échanges devraient également porter autour d'une possible future visite d'État en Afrique du Sud de Volodymyr Zelensky. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Dans l'actualité ce matin également, la Côte d'Ivoire qui annonce avoir rapatrié du Liban son ambassadeur et son personnel diplomatique, évacuation officiellement pour des raisons de sécurité et qui se fait sur des vols commerciaux. Au total, entre 60 et 100 personnes devraient être concernées. Au Mozambique, le Frelimo, le parti au pouvoir, dit maintenant vouloir dialoguer avec l'opposition après l'annonce par la commission électorale de la victoire de son candidat à l'élection présidentielle au début du mois. Annonce jeudi qui a provoqué d'importantes manifestations de mécontentement dans plusieurs villes du pays. Rassemblement réprimé par les forces de l'ordre. Au moins un homme a été tué. Et pour la porte-parole du Frelimo, il est temps de calmer le jeu. Alors que dans le même temps, Venancio Mondlane, le principal opposant, appelle lui à une nouvelle journée de manifestations demain lundi. La Turquie va pouvoir débuter sa mission d'exploration de pétrole et de gaz en Somalie, précisément dans les eaux territoriales somaliennes. Le navire de recherche turc est arrivé avant-hier au port de Mogadiscio en vertu d'un accord signé au mois de mars dernier. On parle en fait de 3 zones offshore pour une surface totale à explorer de 15 000 km². Florence Maurice.
L'arrivée du navire à Mogadiscio a été célébrée en grande pompe en présence du président somalien et du ministre turc de l'énergie. C'est un jour historique, a estimé le ministre somalien de la Défense. La mission de prospection devrait durer 7 mois. Le navire de recherche collectera des données sismiques afin de permettre à Ankara d'identifier de potentiels sites de forage. Les réserves en pétrole et en gaz dans ces eaux sont estimées à au moins 30 milliards de barils. Ankara cherche ainsi à diversifier ses sources d'approvisionnement provisionnement en hydrocarbures pour moins dépendre de la Russie. En contrepartie, elle s'est engagée à protéger les côtes somaliennes. Plusieurs bâtiments de la marine turque seront d'ailleurs déployés pendant la mission pour sécuriser le travail de recherche. Mais cette présence militaire turque pourrait raviver des tensions, car une partie des eaux territoriales qui vont être explorées sont situées au large de la République autoproclamée du Somaliland. Or, en juillet dernier, son gouvernement avait prévenu que le déploiement de l'armée turque dans ces eaux risquerait, je cite, de compromettre la stabilité régionale. Dans cette zone maritime convoitée, surtout depuis que l'Éthiopie s'est rapprochée du Somaliland.
Florence Maurice, et puis un mot de sport avant de retrouver Penaï Traoré et l'émission Afrique Archives d'un continent. Avec d'abord du cyclisme, le Tour du Faso qui se poursuit, 3e étape aujourd'hui entre Ouagadougou et Koudougou. Mais cette 35e édition sera sans doute la dernière sous sa forme actuelle. Le Tour est retiré du calendrier de l'Union Cycliste Internationale. Sanction prise en raison de la participation à la course d'une équipe russe invitée par les organisateurs. Les sports, c'est aussi le football et le Nigeria qui obtient 3 points sur tapis vert après sa triste expérience en Libye il y a une dizaine de jours dans le cadre des qualifications pour la prochaine CAN. Les Nigérians qui ne sont jamais allés plus loin que l'aéroport désaffecté d'Alabrak, où ils ont été bloqués pendant plus de 15 heures, sans nourriture ni explication, avant de reprendre l'avion direction le Nigeria. Eh bien, la CAF vient de déclarer le match perdu par la Libye par forfait. Score donc de 3-0 pour le Nigeria. Et puis le Sénégal reste le roi du beach soccer africain sur le sable d'Ourgada en Égypte. Les Sénégalais se sont imposés en finale de la CAN de beach soccer, donc victoire nette 6-1 face à la Mauritanie. À Dakar, il est maintenant 8h40. Passez une excellente journée à l'écoute des RFI.